Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Vous le savez sans doute, frères et sœurs, ou peut-être vous l'apprenez aujourd'hui, c'est ce dimanche qu'entre en vigueur, ici dans l'Église du Canada, la nouvelle version de la prière du Notre Père, une nouvelle version pour la fin de la prière du Seigneur. Alors qu'en est-il ? Nous allons, si vous le voulez, nous intéresser à cela. La liturgie de ce jour va nous aider à éclairer cette nouveauté. Les textes de ce dimanche premier de l'Avent, en effet, comportent deux pôles. Un premier pôle, la fragilité, la vulnérabilité de la personne humaine vis-à-vis du mal. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans l'ivresse les soucis de la vie. Et vous pouvez continuer la liste. Donc notre vulnérabilité d'un côté, et de l'autre côté, le pôle de la promesse. Une parole de bonheur, comme disait le prophète Jérémie, cette parole de bonheur, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu, par-delà la fragilité de l'homme, veut le rencontrer, et il vient le rencontrer justement au lieu de sa fragilité, afin de le relever, de le sauver. Ceci, en vue de ce jour du Seigneur, vers lequel le début de l'Avent tourne nos yeux. À ce moment-là, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, nous dit l'Évangile. Redressez-vous, relevez votre tête, car votre rédemption approche. Voilà la bonne nouvelle. Malgré une certaine propension au mal chez l'homme, Dieu voit d'abord et surtout en lui cette bonté originelle en laquelle il a été créé, en laquelle l'homme et la femme ont été créés à l'origine. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La nouvelle traduction du Notre Père éclaire adéquatement ces deux pôles, d'un côté la vulnérabilité de l'homme, et de l'autre côté cette bonté fidèle de l'attente patiente de Dieu pour nous sauver. Alors regardons un petit peu ce Notre Père, et déjà peut-être posons-nous la question, pourquoi changer la traduction de cette formule ? Cette formule, eh bien, elle avait été adoptée en 1966 dans une autre version qui laissait un petit peu à désirer. Nous nous en souvenons, la version originale, c'est « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Aujourd'hui, nous disons « ne nous soumets pas à la tentation ». Excusez. Antérieurement, c'est bien, vous suivez. Antérieurement, nous disions « ne nous soumets pas à la tentation ». Et aujourd'hui, nous sommes invités par les évêques du Canada à dire « ne nous soumets pas à la tentation ». Enfin, vous avez compris, vous avez les petits papiers jaunes sur les bancs. Donc regardez-les pendant que vous écoutez. Certains, dans la formule ancienne, avaient du mal à comprendre, à bien saisir dans le sens de la foi ce qui voulait être exprimé là. Elle n'était, et ça c'est important de le noter, elle n'était pas fausse au sens exégétique du terme, c'est-à-dire de la science, de l'explication biblique. Mais certains pouvaient mal la comprendre, cette formule. Et l'Église, dans sa bonté, a écouté le sensus fidei, c'est-à-dire la voix du peuple de Dieu, pour trouver une formule qui nous communique mieux, à notre raison, les données de la foi de l'Église. En effet, nous ne pouvons pas comprendre que Dieu voudrait, dans une sorte de masochisme, nous pousser à faire le mal. Non, ce serait une erreur, un contresens. Car nous le savons, Dieu est la bonté en soi, la bonté ontologique. Il faut noter ici que le texte original est de fait assez difficile à traduire déjà. Il est comme sous-tendu par des formules sémitiques et l'on sait que la traduction est un art subtil, nous sommes au courant ici au Canada. « Lost in translation » disent les anglophones selon l'expression consacrée. Rappel ici d'où vient cette prière du Notre Père. C'est une prière qui a d'abord été dite en araméen par Jésus lui-même à son Père. Ensuite, elle est passée en grec dans l'Évangile. Puis elle a été traduite en latin par ce bon Saint Jérôme. Et enfin en français et en 1966 notamment. Alors que nous apprend en 2018 plus clairement cette nouvelle formule du Notre Père ne nous laisse pas entrer en tentation. Posons les choses dans l'ordre, si vous voulez. Dieu, nous l'avons dit, n'est pas un Dieu masochiste qui s'amuserait à nous tenter de sa propre initiative. Saint Jacques nous dit ceci. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut tenter de faire le mal. Il ne tente personne. Mais il y a cependant, et nous y sommes confrontés, ce mystère du mal, ce mystère auquel nos vies doivent faire face et auquel l'actualité fait malheureusement écho. Il y a donc la tentation, et précisons un petit peu, il y a aussi l'épreuve. Dieu peut, et nous devons le reconnaître, nous permettre de vivre l'épreuve, autrement dit, de vivre le combat, ce combat spirituel. Et en cela, Dieu respecte notre liberté, car dans ce combat, dans cette épreuve, nous sommes confrontés à ce dilemme, à ce choix, un choix entre ce qui est de Dieu, le bien, et ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est de l'autre, ce qui est du mauvais, le mal. Dans cette épreuve, le risque, c'est d'entrer en tentation, c'est-à-dire d'aller trop loin dans les peurs, dans l'épreuve, et de tomber non plus du côté de Dieu, mais dans cette œuvre maléfique. La grande tentation dans la Bible, c'est celle de Massa et Meriba. Cette tentation de Massa et Meriba, c'était quand le peuple de Dieu ne s'est plus fié à Dieu, où il s'est mis à douter de la parole de Dieu. Voilà la grande tentation. L'Apocalypse, justement, vient nous donner les outils pour ne pas tomber ainsi. Cet outil, c'est celui de la parole. Parce que tu as gardé ma parole, avec persévérance, dit le livre de l'Apocalypse, moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve. Nous demandons donc, frères et sœurs, à Dieu de nous porter aide, de nous porter aide dans l'épreuve pour ne pas nous laisser piéger dans la tentation, pour ne pas entrer en tentation et pour nous aider à combattre et à être vraiment ces hommes, ces femmes debout, libres. Il y a donc plusieurs bonnes nouvelles ce dimanche. La première bonne nouvelle, c'est cette traduction heureuse de la prière du Seigneur qui va à présent réjouir notre liturgie. Deuxièmement, il y a cette démarche d'Église qui se fait, et notons-le, dans une concertation écuménique. Voilà la raison pour laquelle, ici au Canada, cette introduction se fait simplement aujourd'hui. Il a fallu du temps pour être en dialogue avec nos frères et sœurs orthodoxes et protestants. Une démarche d'Église dont nous pouvons nous réjouir pour cette recherche par la raison du comment au mieux possible exprimer dans nos pauvres mots humains notre foi dans l'aujourd'hui, dans un langage compréhensible. Et surtout, la grande nouvelle, et c'est surtout ça qui compte, cette nouvelle toujours vraie, mais à considérer sans cesse à nouveau frais, Cette nouvelle, c'est la bonté de Dieu, ce Dieu qui relève l'homme, la femme, quand il tombe dans de mauvaises voies sous l'impulsion du mauvais, ce Dieu qui répand sur nous sa miséricorde, son amour, un amour stimulant, un amour responsabilisant, qui respecte notre liberté, qui nous engage à choisir dans notre discernement entre ce qui est mal et ce qui est bien, qui nous engage à vivre ces épreuves comme un chemin de vie. Terminons, si vous le voulez, par cette belle prière traditionnelle pour l'Avent, le Rorate Caeli, qui nous montre ce Dieu répandant sur nous cette promesse de bonheur et de liberté. Ciel, répand ta rosée, dit cette prière. Nuée, faites pleuvoir sur nous la justice. Terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur, que fleurisse le salut. Oui, Seigneur, fais naître en nous cette vraie liberté de l'homme qui cherche le bien. Fais ressusciter en nous l'homme, la femme debout, qui court vers cette Jérusalem à nous promise, la cité du bien. Amen.